dia. Rádio Alfa.
Bonjour à tous. Le couvre-feu fonctionne très bien en France. C'est ce que déclare aujourd'hui Jérôme Salomon dans le journal du dimanche. Pour autant, le directeur général de la Santé n'exclut pas que les mesures plus strictes prises localement soient étendues si la situation venait à s'aggraver. C'est le cas depuis vendredi soir dans les agglomérations de Nice et de Dunkerque où le couvre-feu local est entré en vigueur ce week-end, mesure qui sera renouvelée samedi et dimanche prochain. À Toulouse, le maire lui a décidé de hausser le ton. La Ville Rose interdit ce dimanche l'accès aux berges de la Garonne et ce en réaction au non-respect des gestes barrières. Nous avons constaté que les gens s'agglutinaient et ne portaient pas le masque, indique sur Twitter le maire Jean-Luc Moudenc. L'Allemagne, de son côté, s'apprête à classer la Moselle en zone à risque maximal. À partir de lundi, décision prise par Berlin en raison de la très forte circulation de l'épidémie de Covid-19 dans le département frontalier. Conséquence, les Mosellans devront présenter un test PCR négatif de moins de 24 heures pour pouvoir passer la frontière. Cela concerne également les 16 000 travailleurs transfrontaliers. Dans l'actualité, également une enquête ouverte pour tentative de meurtre après l'agression à Reims d'un photojournaliste du quotidien régional L'Union. Il a violemment été pris à partie hier par plusieurs jeunes alors qu'il réalisait un reportage. Le pronostic vital de cet homme âgé de 65 ans était engagé hier lorsqu'il a été évacué par le SAMU. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lui affiche son soutien et affirme que la police est pleinement mobilisée pour identifier et interpeller les auteurs. La Convention citoyenne pour le climat s'achève aujourd'hui. Le président de la République Emmanuel Macron s'était engagé à soumettre sans filtre les propositions des citoyens au Parlement à un référendum, soit par application réglementaire. Il en a finalement rejeté 3 et la plupart des autres ont été réécrites. Les 150 citoyens tirés au sort pour cet exercice pointent du doigt des ambitions, selon eux, revues à la baisse par le gouvernement. Et puis du foot, le choc ce soir en Ligue 1, Marseille reçoit Lyon à 21h avant ça. 6 matchs au programme cet après-midi, coup d'envoi de Monaco-Brest dans moins d'une heure. Voilà pour l'actualité, très bonne journée à tous.
Tout savoir sur l'arrêt du tabac avec Tabac Info Service. Entre 2014 et 2019, avec près de 2 millions de fumeurs quotidiens en moins, la France a enregistré une baisse historique du tabagisme. Docteur Nadia Lalou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin tabacologue, directrice scientifique de Tabac Info Service. Qu'est-ce que la période de Covid a changé concernant le tabagisme?
Alors on a noté, d'après les observations de Santé publique France, que pendant le premier confinement, un fumeur sur 5 a diminué son tabagisme.
Qu'est-ce que cela montre?
Que l'on peut réussir à arrêter de fumer, même en période difficile.
Oui, mais c'est quand même plus facile en étant accompagné.
Oui, il ne faut pas hésiter. Se faire accompagner par un professionnel de santé augmente les chances de réussir son arrêt de 70%.
Justement, alors, quelles sont les aides proposées par Tabac Info Service?
En appelant gratuitement au 3989, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé par un tabacologue.
Mmh.
Et vous pouvez avoir de nombreux conseils aussi sur le site de Tabac Info Service, son appli ou sa page Facebook.
Très bien, merci docteur Lalou.
Merci.
L'OM face à l'OL. Deux Olympiques, une rivalité sans faille. Des images mémorables, des matchs sous tension. Car chacun fera tout pour remporter la victoire. Vivez l'Olympico OMOL. Ce soir à 21h sur Canal+, et profitez de 100% de la Ligue 1 Uber Eats jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 en direct seulement sur Canal+ et Canal+ Sport. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Carrefour, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie hypermarché.
Quand on n'a plus rien à se mettre, que son jean a rendu l'âme, ou que son petit dernier grandit trop vite. Ouh là là, ça lui fait quel âge maintenant? On est heureux d'entendre que dès demain, pour les derniers jours des soldes, dans vos hypermarchés Carrefour, il y a 90% de remise immédiate sur tous les articles textiles déjà soldés. Eh oui, 90% de remise immédiate. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour.
Jusqu'à épuisement des stocks. Modalité sur carrefour.fr.
Besoin d'une location d'appartement? Avez-vous pensé à la location meublée? Simplifiez-vous la vie et venez simplement avec votre valise. Nous vous proposons de mettre à votre disposition tout le nécessaire pour la location de votre futur appartement, du mobilier, l'électroménager, à la vaisselle de maison, en passant par la télé à écran plat, tout est compris. Profitez d'une situation exceptionnelle au pied du lac de Créteil, à proximité de commerce et du métro ligne 8. Contactez la société MGI, le professionnel de la location meublée, au 01 45 10 15 03. MGI, une autre vision de la location.
Lidl, meilleur meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron ?
On
est
dans les choux, c'est ça ?
Ah bah dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et dès demain, le chou-fleur est à 1,29€ la pièce.
Non.
Ah si patron, 1,29€ la pièce. Et origine France en plus, hein. Ah, le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du chou-ci à se faire.
Et ça te fait rien. Des soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues.
Ah bah oui, pas de soucis, patron, j'arrête.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
PCE, le seul concurrent du CACES reconnu par le ministère du Travail.
Transférable dans toutes les entreprises, en cas d'accident du travail, vous avez les mêmes garanties que CACES.
Nous intervenons sur vos chantiers ou dans vos entreprises, même pour un salarié. Nouveau, les tests sont traduits en portugais.
Formation sur engins de chantier, nacelles élévatrices, chariots industriels, grues auxiliaires de chargement, grues mobiles, grues à tour, ponts roulants. En seulement quelques heures.
Tarif spécial Radio Alpha, 600 euros hors taxe, quel que soit le nombre d'engins.
Pour nous joindre, www.mypce.eu
ou au 06 71 43 35 49.
Carrefour. Chaque semaine, découvrez nos produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, le sachet d'un kilo d'endives Origine France est au prix imbattable de 1,29€. Et si malgré tout, vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
Catégorie 1, modalité sur carrefour.fr. Radio
Alpha. Domingo às 14h25 e quarta às 9h30 da manhã, esteja atento ao programa O Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian. 7P, Boulevard Jourdan, em Paris 14, na Cité Universitaire, entrada sob marcação.
Passagem de nível. Artur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 28 février, passage à niveau avec vous jusqu'à 13h30. Et on va commencer par parler du Covid, couvre-feu, vaccin, etc. Et devant, pour combattre tout ça, et on trouve qui ? Les maires, justement. D'abord, on ira jusqu'à Champigny-sur-Marne avec monsieur le maire Laurent Jeanne. Et après, Dacron avec Michael Damietti. Après, on parlera de la situation dans les facs. Les étudiants, ils travaillent à la maison. Et surtout, on ira jusqu'à Pau, où la section portugaise est en train de disparaître à petit feu. Et après, on va s'éloigner un petit peu de tout ça. On va parler de fado, mais un fado avec des accents un peu aussi de tous les continents, avec le fadiste Karl Pitsch. Mais déjà, on va jusqu'à Champigny-sur-Marne. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, Arthur Sylvain.
Alors, monsieur Laurent Jeanne, bien entendu, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va être annoncé jeudi prochain par monsieur le Premier ministre, mais déjà, comment ça se passe au niveau de Champigny? Parce que bon, c'est pas évident, il y a un couvre-feu à 18h. Alors, je commence peut-être par la base. Il y a plein de monde qui sort à peu près à cette heure-là du travail. Comment on fait pour faire les courses? Il y a samedi, oui. Dimanche, mais enfin.
Ah, c'est un vrai problème, hein. Moi, je suis tout à fait favorable à la position qui est celle du président de la République, de dire qu'il faut tout faire pour éviter le confinement. Ceci étant, on a besoin d'une modalité un peu souple pour que les gens puissent effectivement faire leurs courses, parce qu'on s'aperçoit que le samedi, ben, il y a une concentration encore un peu plus forte dans les grandes surfaces. Et ce que je demande, c'est que véritablement les mesures qui sont autour du couvre-feu soient réellement appliquées, parce qu'on voit que parfois, au-delà des 18h, on a des regroupements, on a des commerces qui continuent à avoir une activité qu'ils ne devraient pas avoir, des petites épiceries qui se transforment en bars, des choses comme ça. Donc vraiment une application beaucoup plus stricte des mesures qui existent pour éviter vraiment le confinement dont on n'a absolument pas besoin d'avoir des conséquences, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, c'est des conséquences extrêmement difficiles lorsqu'on va jusqu'au confinement.
De toute façon, bon, il y a quelque chose qui nous prend en nez, je passe l'expression, il suffit de voir ce qui se passe à Nice et aux alentours, Dunkerque également, et on s'attend, étant donné que l'épidémie de la région parisienne continue à s'aggraver, c'est qu'on soit confiné aussi les samedis et dimanches.
C'est le risque. C'est le risque parce que effectivement, le samedi et le dimanche, il y a des activités qui ont tendance à peut-être faire circuler un peu plus. Mais enfin, il n'y a pas que ces activités du samedi et dimanche autour des courses, avec tout le débat qu'il y a pu avoir d'ailleurs entre les petits commerces et les grandes surfaces. Et moi, je souhaite que vraiment tous les petits commerces puissent rester ouverts parce qu'ils appliquent globalement, à Champigny comme ailleurs, ils appliquent réellement les mesures. Et il n'y a pas de difficulté par rapport à cela. En revanche, d'avoir encore certaines grandes surfaces où il y a des concentrations phénoménales aux caisses parce qu'on a des créneaux qui sont plus limités, là pose une véritable difficulté. Oui.
Alors, les vaccins, on parle beaucoup, beaucoup des vaccins, on parle même d'un genre de passeport ou un pass pour pouvoir aller faire des choses que tout est fermé, les cinémas, les théâtres, les musées et tout et tout. Concrètement, comment est-ce que vous voyez, comment sortir de tout ça? Et parce que les vaccins, bon, il n'y en a pas des vaccins. Comment ça se passe au niveau de Champigny et du Val-de-Marne? Est-ce que vous avez des détails?
Alors oui, j'ai d'autant plus de détails que j'ai été une des deux villes, des deux premières villes du département à disposer d'un centre de vaccination. Depuis le début de cette crise, Champigny fait beaucoup. On a mis en place des centres pour le dépistage très très tôt. On a multiplié d'ailleurs les centres et assez naturellement, l'ARS avec laquelle on travaille au quotidien, nous a proposé à Alfortville et à Champigny de devenir les deux premières villes avec un centre de vaccination. Donc moi j'étais enchanté, je me suis dit ça y est, on y va. Le préfet, l'ARS m'ont dit bon, il faut que vous nous accompagniez, monsieur le maire. Je lui ai dit ben, formidable, nous on y va, on est à votre disposition. Vous allez avoir 1000 doses de vaccins par semaine, donc organisez-vous en conséquence. Donc on s'est organisé, on a mis en place un centre avec 6 médecins, des infirmières, vraiment toute la structure pour que ça fonctionne, pris en charge par la collectivité, et puis au final, première semaine, 500 doses. On s'est dit, bon, c'est le temps que ça démarre, pas de problème. Deuxième semaine, 400 doses, puis 300, puis 200. Et puis depuis, on est sur 200, 300 doses selon les semaines, et c'est là où on a vraiment une difficulté, nous les maires, c'est que la population est vraiment en attente de ce vaccin. Moi, j'ai tous les jours des gens qui me contactent pour me dire « Monsieur le maire, je veux me faire vacciner, j'ai plus de 75 ans, j'y ai le droit. » Et puis moi, de l'autre côté, j'ai pas de dose pour pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment la difficulté majeure. Il n'y a pas l'organisation nécessaire aujourd'hui, alors à la fois en termes de quantité, puis même d'organisation, puisque le système qui a été mis en place, c'est là où on arrive à quelque chose de totalement délirant, le système qui a été mis en place, c'est pas celui qu'on a, par exemple, pour la carte scolaire. Il n'y a pas eu une carte vaccinale qui dit, par exemple, vous habitez à Villiers-sur-Marne, vous avez le droit de venir à Champigny. On peut s'inscrire partout, dans tous les centres de vaccination qu'il y a en France. Moi, j'ai des gens qui sont inscrits, qui sont de la Lozère. J'ai des gens de loin qui sont inscrits sur le centre de Champigny. Et en fait, on s'aperçoit que des gens s'inscrivent un peu n'importe où parce qu'il n'y a pas de dose. Mais du coup, on se retrouve avec des rendez-vous qui sont pris, mais qui ne sont pas honorés. Parce que, bien évidemment, les gens prennent 5-6 rendez-vous, parfois même beaucoup plus. Et puis, dès qu'ils ont un rendez-vous assez rapide, ils y vont, forcément. Et puis les autres, ils les laissent en plan. Et donc, on se retrouve dans certains centres de vaccination avec 20% de gens qui doivent venir pour faire une vaccination et qui ne peuvent pas qui ne la réalisent pas parce qu'ils ne viennent pas. Alors, ce que l'on a fait, on n'a pas suivi, du coup, les demandes de l'ARS de dire on doit ouvrir à tout le monde. On gère nous-mêmes maintenant, depuis bientôt 10 jours, les listes d'attente. Et c'est nous-mêmes qui inscrivons les personnes. Et ce qui fait que 100% des doses que l'on reçoit, on en reçoit tellement peu qu'elles sont réellement injectées et que les choses commencent à se faire normalement. Mais ceci étant, on est à peine un quart aujourd'hui des plus de 75 ans qui sont vaccinés. Alors qu'on nous avait dit, courant mars, les plus de 75 ans seront tous vaccinés. On passera ensuite à la tranche des 65-75 ans. On en est très très loin. Donc là, vraiment, il y a un dysfonctionnement majeur de la part de l'organisation de l'État. Nous, on est tributaires. Et puis, les populations, et c'est bien légitime, viennent nous voir en nous disant qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire, vous ne faites pas votre boulot. Et ce n'est pas le problème des maires. C'est le problème de l'ARS qui ne fonctionne pas, qui ne donne pas les doses suffisantes avec une mauvaise organisation. Et c'est là où on a une vraie difficulté.
Alors, à ce rythme, et tenant compte de la population de Champigny, il faudrait combien de mois pour vacciner les gens, en sachant que le vaccin Pfizer, par exemple, il faut le donner deux fois, avec un intervalle de 3-4 semaines. Il faudra combien de mois? Ce sera à Noël que toute la population de Champigny sera vaccinée?
Vous savez, c'est même plus que la population de Champigny, puisque là, on a commencé à avoir un début d'organisation pour les rattachements. Donc moi, j'ai proposé assez spontanément au maire limitrophe, qui n'avait pas de centre à proximité, donc Villiers-sur-Marne, dans l'occurrence, et Chennevières, puis même Joinville, mais bon, maintenant, Joinville essaie de fonctionner un peu plus avec le centre de Maisons-Alfort, d'avoir quand même une organisation un peu territoriale, puisque l'État ne l'avait pas intégré. Donc, au global, c'est 125 000 habitants qu'il faudrait que je puisse vacciner. À ce rythme-là, écoutez, à Noël, si on peut déboucher le champagne en se disant qu'on a fini la dernière vaccination, ce serait formidable. Mais moi, j'y crois même pas à Noël. Si on est sur ce rythme-là, c'est plutôt un an et demi qu'il nous faut.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du troisième âge, justement. Alors, on dit que 80% des gens qui sont en maison de repos et dans les EHPAD ont été vaccinés. Au niveau de Champigny, quelle est la situation?
Alors, on est un peu au-dessus parce qu'en fait, on a deux EHPAD, notamment à Champigny. Il y en a un qui est privé et l'autre qui est public, qui est le nôtre, hein, qui appartient à la ville. Et donc, on a vacciné 90%, c'est-à-dire en réalité, tous ceux qui le souhaitaient ont été vaccinés. On a eu quelques cas de gens qui ne souhaitaient pas et qui ont un refus de la part de la famille aussi. Parce qu'on essaye d'impliquer tout le monde, mais on peut pas l'imposer, cette vaccination. Mais on fait effectivement œuvre de pédagogie pour leur expliquer tout l'enjeu qu'il y a. Et puis l'objectif, c'est de protéger tout le monde sur ces EHPAD qui ont été fermés. Mais on n'est pas loin d'arriver à 100% parce qu'on continue à relancer les familles. Et on a vraiment besoin qu'ils soient totalement protégés. On est encore sur un protocole avec des visites assez limitées. Et donc, il faut absolument qu'on fasse une barrière pour que les gens qui ont été vaccinés ne puissent pas être infectés. Parce qu'il y a le variant aujourd'hui. La difficulté, c'est que c'est plus seulement le Covid, c'est le variant. Le Covid, il y a presque 10 les médecins. Moi, je suis pas médecin, mais j'écoute, je suis très attentif à ce qui se passe au quotidien. On a en plus un directeur de la santé à la ville qui est médecin et qui suit ça heure par heure en fonction des informations dont on dispose. Et le Covid, c'était, on disait qu'il fallait, si on enlevait son masque pendant un quart d'heure, on pouvait attraper le virus. Là, avec le variant, c'est moins de 2 minutes pour se transmettre le virus quand on ne porte pas le masque. Donc le variant amène une vraie difficulté en termes de propagation de la pandémie. Et donc, là encore, dans quelques jours, pour la rentrée, on va redistribuer des masques dans les écoles, pour que les enfants se protègent au mieux. On essaye d'être au plus attentif aussi à un accompagnement social avec les étudiants. On a fait une opération de solidarité, parce que eux se retrouvaient totalement isolés, mais sans aucune aide. On essaye d'être à l'écoute de tout le monde, de toutes les situations, aussi bien les seniors en priorité, parce que c'est quand même eux qui ont été les plus touchés et qui le sont encore par cette pandémie. On voit bien le nombre de morts qu'on a encore, mais aussi tous ceux qui sont dans la difficulté, que ce soit les étudiants et puis les enfants, parce que moi, il y a une vraie préoccupation au niveau des écoles avec ce moment un peu particulier qui est celui du repas. On a renforcé les mesures, les distances, mais malgré tout, ça reste quand même de la restauration collective. Oui, et donc, moi, j'ai pas voulu faire un menu unique. Et donc, par rapport à ça, bien évidemment, il faut aussi que on puisse continuer à alimenter les enfants, parce que pour certaines familles, c'est le seul repas équilibré de la journée.
Alors justement par rapport aux enfants, on a parlé, Monsieur Blanquer a annoncé qu'on allait avoir des tests rapides dans les écoles, même au niveau de la maternelle. Qu'est-ce qu'il y a de prévu au niveau des écoles à Champigny?
Alors, écoutez, j'espère que réellement ça se fera, mais moi j'ai beaucoup de réserves sur les déclarations ministérielles. On nous avait quand même dit, du côté de Monsieur Blanquer, qu'on aurait des masques qui seraient fournis à tous les enfants. Vous vous souvenez, c'était il y a quelques semaines, tous les enfants seront équipés dans les classes, après nous avoir expliqué que le masque servait à rien pour les enfants, c'était devenu absolument nécessaire, et que l'État serait là. L'État n'a pas été là. C'est la ville qui a pris en charge, qui a distribué, moi j'ai mobilisé tous mes élus pour aller distribuer des masques auprès des enfants, qu'on leur a offert, pour une première distribution, et puis là, pour la rentrée qui arrive, on va en faire une deuxième, parce que l'État n'est toujours pas là. Et donc, les tests, s'ils arrivent, on en sera très heureux, mais j'ai beaucoup de craintes sur le fait que les tests n'arrivent jamais. C'est un peu comme les vaccins, où on nous fait des déclarations, il y aura des vaccins, organisez-vous, vous allez avoir 1000 vaccins par semaine, puis on se retrouve à 200, 300, 400, au mieux. On a vraiment du mal. Donc moi, Je pense pas qu'on verra tout de suite les tests une fois de plus, parce que le véritable sujet aujourd'hui, c'est que les enfants portent bien leur masque et puis qu'on arrive à progresser sur cette vaccination.
Alors, Monsieur le maire, une dernière question, savoir avec le couvre-feu et la jeunesse, parce que alors les jeunes, ils sont en vacances, qu'est-ce qu'ils font à partir de 18h à la maison, etc., etc. Toutes les activités, ou la plupart des activités, elles sont à l'arrêt. Ça pose un problème, parce que vous êtes une ville très jeune aussi.
Oui, ça pose une vraie difficulté. C'est pour ça qu'on a souhaité faire cette opération de solidarité auprès des étudiants. On essaye de multiplier aussi des activités sportives, culturelles à distance pour toute la population et en particulier pour les jeunes. Mais c'est vrai que c'est pas simple d'avoir 20 ans cette année. Moi, j'ai ma fille qui a fêté ses 20 ans hier. Je peux vous dire qu'elle aurait aimé faire une fête comme tous les jeunes aujourd'hui. Et puis, on se retrouve à 6 grand maximum. Et c'est compliqué pour eux. Il faut être à leur écoute. Il faut vraiment essayer de trouver des dispositifs pour pouvoir rester en lien avec eux, parce qu'on a aussi des jeunes qui sont un peu isolés. Il faut que aussi ils entendent un petit peu raison, parce que certains dérapent sur le non-respect du couvre-feu. Hein. On en voit certains qui parfois font des soirées sur les trottoirs. Aujourd'hui, on a un peu ce phénomène. Et je pense que c'est la responsabilité de tous d'être vigilants dans ces moments que nous vivons.
Difficile, oui. Monsieur Laurent Jeanne, merci. Je rappelle, vous êtes maire de Champigny-sur-Marne dans le département 94. Merci. À très bientôt. Et d'ailleurs, je vais inviter Madame Pécresse pour qu'on parle au niveau de la région, comment la région s'organise, ou essaie de s'organiser pour aider la population de Île-de-France. Merci, Monsieur Laurent Jeanne.
Merci, Arthur Silva. À bientôt.
Au revoir. Et dentro de um instante, vamos até o departamento 91, até Crona, para falar com o maire Michael Damiati. Direct, quand on parle de revenir au direct, il y a aussi des imprévus. Et justement, au niveau des imprévus, on pensait aller à Crone, mais finalement, on va aller pas dans le 91, mais dans le 64 Pyrénées-Orientales. Et avec nous, Valentin Fernandes. Valentin, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes président de la LUSOASSO, Association des étudiants lusophones de l'Université de Pau et des pays de l'Adour. Alors, vous êtes d'origine portugaise, mais vous étudiez l'espagnol. Ça mérite une explication, ça, non?
Tout à fait. Alors, moi, je suis en licence d'espagnol en deuxième année, pour la simple et bonne raison qu'à l'Université de Pau, il n'y a pas de licence de portugais. Il y en avait une qui avait été créée dans les années 70. Donc, c'est-à-dire que le portugais avait d'abord été offert en tant que, dans le cadre des études hispaniques. Et après, il y a une section de portugais qui est née. Et la licence avait été mise en forme et dirigée par Madame Bess et Madame Dumas. Mais elle a été sacrifiée. Et donc maintenant, il n'y a que l'enseignement de portugais organisé sur 5 niveaux.
Alors, il y avait quelque chose qui existait aussi, vous appelez ça tandem. C'était des liens avec des facultés portugaises, vous pouvez peut-être nous expliquer?
Oui, tout à fait. Donc, nous, à l'Université de Pau, on est en partenariat avec l'Université de Porto. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des tandems linguistiques, donc il y a un étudiant francophone et un étudiant lusophone. Et en fait, c'est pour que chacun apprenne en améliorant ses compétences dans la langue avec ce binôme, quoi. Donc, ils sont quand même en autonomie. Et chaque binôme organise des temps de conversation hebdomadaires. Donc il y a plusieurs objectifs. Donc c'est pour améliorer ses compétences linguistiques, améliorer l'expression orale en interaction dans une situation de communication authentique, favoriser le partage et la découverte des cultures, développer l'autonomie dans l'apprentissage des langues et mettre en place un parcours d'apprentissage individualisé.
Mmh. Alors, voilà. mais ça, ça existe encore ou c'est disparu?
Alors, ça existe encore l'année dernière. À l'avant-dernier semestre, mais ça nous a été supprimé bon, pour des problèmes internes, et on nous refuse aujourd'hui de nous le remettre en place.
Mmh. Voilà. Donc, bon, et en même temps, bon, j'ai eu des renseignements par ailleurs. Bah, apparemment, il y a eu une réunion vendredi, avec le consul Bordeaux pour analyser toute la situation de l'enseignement du portugais à Pau et autour de Pau. La situation est vraiment catastrophique, il paraît. Alors, je ne sais pas si vous avez davantage de détails, parce que finalement, s'il n'y a pas de cours de portugais au niveau du primaire, du collège, du lycée et tout ce qui suit, bon, au niveau universitaire, ça va être fini bientôt.
Bien sûr. Mmh. Et c'est pour ça que nous, on a créé cette association en début d'année 2020 pour essayer justement de soutenir le portugais à Pau, quoi, pour pas que ça disparaisse.
Mmh.
Voilà.
Ben, et pourtant, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de portugais ou pas, c'est pas la question. C'est que la langue portugaise dépasse largement l'existence d'une communauté portugaise. C'est une langue de travail, c'est un atout pour le futur aussi.
Tout à fait, oui.
Mmh. Alors, Valentine, ça vaut la peine de parler. Je déteste de dire ça. Troisième génération. Parce qu'en réalité, vous êtes d'origine portugaise, mais c'est vos grands-parents. Ils sont arrivés en France à peu près à quelle date? Dans les années quoi, 60, un truc comme ça, ou pas du tout?
Oui, à peu près, oui, mmh. Tout à fait.
Donc, votre père ou votre mère sont déjà nés en France.
Tout à fait.
Comment est-ce que vous vivez cette double culture?
Oh ben, je le vis très bien, très bien. Moi, je vais au Portugal chaque année, donc c'est vrai que le Portugal, je le lâche pas, quoi. Je le lâche pas. Je pense que dans ma famille, c'est vrai que le Portugal, il ne s'oublie pas. On peut dire ça comme ça. La culture portugaise ne s'oublie pas.
Et surtout que vous n'êtes pas très loin, vous êtes pratiquement à la frontière avec l'Espagne.
Oui, 10 heures à peu près, donc c'est vrai que... Oui, le Portugal, dans notre famille, ne s'oublie pas. C'est quelque chose qui reste quand même ancré dans nos origines, quoi.
Mais pour vous, le Portugal, c'est quoi? Parce que bon, quand vous étiez enfant, bon, c'était les vacances, c'était la plage, c'était ceci et cela. Donc, vous avez connu le bon côté du Portugal en vacances?
Oui, bien sûr, oui. Mais bon, ça fait partie quand même de mes racines. Donc, même si c'est quand même un lieu de vacances, je pense que c'est la... Pour moi, j'estime que c'est de là que je viens, quoi. Donc, ça ne s'oublie pas.
Mmh.
Ça ne s'oublie pas.
Alors, on a commencé par parler justement que vous êtes en deuxième année d'espagnol. La suite, qu'est-ce que vous pensez faire, obtenir quel diplôme et pourquoi faire?
Alors, moi, je suis en licence d'espagnol, études hispaniques. Et donc, moi, j'envisage de finir ma licence à l'Université de Pau.
Mmh.
et me diriger vers un master MEF basé sur l'éducation, donc pour être professeur des écoles à l'ISEC de Bordeaux.
Oui. Et donc pour quoi? Pour enseigner, pour faire le, qu'est-ce que vous pensez faire?
Ouais, pour être professeur des écoles dans les écoles maternelles.
Directement?
Oui, tout à fait.
Donc ça vous dit de travailler avec des enfants très jeunes?
Oui. C'est une vocation.
C'est finalement c'est la base, hein, parce que ça c'est très important les premières années qu'on passe à l'école.
Eh oui, c'est ça. Oui, c'est une vocation que j'ai depuis à peu près le collège. J'ai effectué un stage dans une école qui m'a confirmé cette vocation-là. Et bon, je suis de plus en plus intéressée aussi par les enfants, donc oui, je pense partir vers ça d'ici 2022 à peu près.
Alors d'ici 2022, bon, on est en plein Covid, hein, ça va faire un an. Bon, vous avez été confiné et apparemment quoi, vous allez une fois par semaine à la fac, comment ça se passe?
Alors oui, nous on a été confiné en début septembre, on a repris en présentiel comme la plupart des autres universités. À la sortie des vacances de la Toussaint, donc là on a été confiné, ça veut pas dire qu'on suivait les cours en distanciel, on avait les examens aussi en distanciel pour la plupart, donc les examens anticipés du mois de décembre, mais aussi les examens terminaux au mois de janvier étaient la plupart aussi en distanciel. Notre département d'espagnol a essayé de mettre en place du présentiel une fois par semaine. Donc bon, en priorité pour les premières années, parce que c'est quand même difficile pour eux d'intégrer l'université et d'être en distanciel quand on est dans un nouveau lieu, quoi. Et nous, les L2, on revient une fois par semaine le mercredi, donc pour toute la journée. Et malheureusement, les L3, donc les troisième années, ne peuvent pas revenir.
Donc ça veut dire, bon, je pense que vous connaissez des collègues qui sont en première année et que finalement, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la fac. Qu'est-ce que c'est un amphi, etc., etc. Parce que quand on rentre dans la fac, bon, c'est fini, hein, faut qu'on se débrouille tout seul, on étudie tout seul, s'organiser. Donc ça manque, ça.
C'est ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont en première année, ils sont très suivis pédagogiquement. Il y a le responsable de licence qui travaille beaucoup avec les directrices du pôle espagnol. Ils sont suivis pour leur orientation. Ils sont très, très, très suivis, quoi. Justement pour pas qu'ils perdent cette envie d'étudier et d'abandonner, quoi.
Oui, parce que ça va être une année difficile. Alors, difficile également, c'est... Bon, il y a plein d'étudiants qui avaient des petits boulots. Parce que c'est ça qui a aidé aussi à payer la chambre, se nourrir, etc. Comment ça se passe au niveau de Pau? Est-ce que vous êtes au courant et qu'il y a des jeunes qui ont des problèmes? Parce qu'on parle aussi des Restes du Cœur, etc., que les étudiants vont demander de l'aide aux associations humanitaires. Comment ça se passe à Pau?
Alors à Pau, je sais que, bon, niveau national, il y a le repas 1 euro qui a été mis en place pour les étudiants le midi, il me semble, le soir, si je ne me trompe pas. Après, j'ai pu comprendre aussi que il y a des familles qui proposaient des repas aux étudiants pour échanger, pour qu'ils soient pas trop seuls, pour éviter justement la solitude et la dépression. Mais après, dans le cadre humanitaire, je vois pas trop. On a eu une aide au courant novembre du gouvernement.
Une aide quoi, financière?
Oui, tout à fait. Oui. En plus des bourses pour ceux qui peuvent
en bénéficier.
Voilà, c'est ça. Mais sinon, en plus, je pense que, comme tout le monde le dit, on est quand même oublié, quoi.
Oui, tout à fait, parce que bon, c'est pour ça que j'insistais avec les petits boulots. La restauration est fermée, tout ce qui concerne bon, la musique, etc., tout un tas de trucs. Bon, c'était des petits boulots pour les jeunes, c'est ça qui a aidé à...
Ouais.
Bon. Non, mais vous discutez entre vous par rapport à ces questions-là, entre étudiants ou pas?
Pas forcément, non. Pas plus que ça. Après, ça dépend de chaque cas de figure. Moi, je sais que je vis chez mes parents, donc bon, c'est pas forcément un problème. Mais il y en a qui, voilà, qui ont leur appartement, et je pense que financièrement, c'est difficile. Ouais.
Alors, difficile également, c'est quand on a 20 ans, même 22 ans, c'est, on peut rien faire. On est confiné à partir de 18h, plus de bamboche, plus rien. Comment est-ce que vous vivez ça?
Ouais, c'est difficile, ouais. Difficile, c'est surtout qu'on est dans notre vie étudiante, donc c'est là où on doit profiter le plus. On peut sortir, voir des amis, aller au resto, enfin bon, voilà, profiter quoi de la vie étudiante. Sauf que là, on est contraint ne pas pouvoir profiter justement, et je pense que c'est très difficile pour tout le monde.
Oui, parce que c'est un âge très important, parce qu'on a un âge d'apprentissage, entre guillemets, le passage à l'âge adulte et tout, et on commence à créer notre propre vie, et là, confiné, voilà.
C'est ça, oui.
Valentin Fernandes, merci, je vous remercie. Et bon vent, bon courage pour vous et pour tous les étudiants. Et surtout, je pense à tous ceux qui avaient des petits boulots. Ils n'ont plus rien. Et quand on est obligé de quémander, c'est un peu triste. Alors, pour ceux qui voudraient avoir davantage de renseignements au sujet de l'USASSO, le mieux, c'est d'aller sur Internet, c'est ça?
Oui, sur la page Facebook, l'USASSO,
Association des étudiants lusophones de Pau. Alors, espérons aussi que vous soyez interviewé un séjour par Radio Campus Pau.
Oui, tout à fait. Oui, on a des petits projets... Voilà, le Covid, c'est un peu compliqué. Mmh. Voilà, on va être interviewé normalement d'ici la fin de l'année, si tout va bien.
Voilà. Et le compte en banque, ça a avancé ou pas encore?
Oui, oui, tout est ouvert. On a eu une aide grâce au CICI Iberbanco, que je recommande fortement, de Pau. Ils nous ont ouvert un compte en banque sans frais conséquents. Et voilà, donc maintenant on va faire des demandes de subventions pour des projets. On a le projet de faire des reportages sur les immigrés portugais en Aquitaine. Madame Mendes Girardès, notre professeur de portugais, c'est pour le garant du projet. Et voilà.
Bah, donc, ce qu'il faut, c'est des projets et les mettre en pratique.
C'est ça, tout à fait.
Voilà. Bon, et comme dirait l'autre, bon, il faut faire vivre la culture lusophone à Pau et dans sa région. Merci, Valentin.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Et vamos à publicidade e depois espero bem irmos até Krone.
Estamos ligados. Alfa 98.6.
Savoir sur l'arrêt du tabac avec Tabac Info Service. Aujourd'hui, j'ai reçu le docteur Nadia Lalou pour qui la période de Covid ne doit pas briser la dynamique de baisse du tabagisme constatée depuis 2014 en France. Pendant le premier confinement, Santé publique France a constaté qu'un fumeur sur cinq a diminué sa consommation. Le docteur Lalou nous a donc rappelé que même en cette période difficile, arrêter de fumer, c'est possible. C'est un défi positif et Tabac Info Service est à vos côtés pour vous y aider.
Carrefour, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie hypermarché.
Quand on n'a plus rien à se mettre, que son jean a rendu l'âme, ou que son petit dernier grandit trop vite. Ouh là là, ça lui fait quel âge maintenant? On est heureux d'entendre que dès demain, pour les derniers jours des soldes, dans vos hypermarchés Carrefour, il y a 90% de remise immédiate sur tous les articles textiles déjà soldés. Eh oui, 90% de remise immédiate. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour.
Jusqu'à épuisement des stocks. Modalité sur carrefour.fr.
Les viandes de bœuf Label Rouge. Par ceux qui en parlent le mieux.
Pour une bonne viande de bœuf Label Rouge, c'est simple. Il faut des animaux de nos terroirs, bien élevés, tout au long de l'année. Et puis aussi des éleveurs qui font leur métier avec passion et exigence. Et le plaisir, il est là, dans l'assiette.
Et donc vous êtes éleveur?
Pas du tout, je suis artisan. Mais manger mieux, ça me parle. Et offrir une juste rémunération à nos éleveurs aussi. Pas vous?
Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux.
Tu sais quoi? C'est décidé, je le plaque. Ça fait 5 ans que je le supporte. Mais là, terminé. Trop, c'est trop.
Mais qu'est-ce qui t'a décidé?
Et avec lui, plus aucune liberté. Le shopping, la plage, les amis, j'oublie.
Et pour les enfants?
Ils ont envie d'une maman épanouie, non?
C'est clair.
Aujourd'hui, je dis stop. Je veux retrouver ma vie d'avant. C'est clair et net. Je plaque mon psaud et j'en parle au dermato.
Pour le psoriasis, des solutions existent. Parlez-en au dermatologue. Rendez-vous sur c'estclairetnet.fr. AbbVie, en partenariat avec France Psoriasis, le soutien de la Société française de dermatologie et du groupe de recherche sur le psoriasis.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô? Allô? Vous connaissez la nouvelle?
Non, je sèche. C'est quoi?
C'est quoi? Bah, c'est les noix. Les noix sèches. Dès demain, chez Lidl, le kilo de noix sèches est à 2,99€.
Moins de 3€ le kilo de noix? Moi, j'y crois pas. C'est encore un prix à la noix, ça.
Ah non, c'est le vrai prix. 2,99€. Et origine France, les noix.
Toi, tu cherches des noises.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, calibre 28-30, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Radio Alpha.
But.
Boutique, la queue en brie s'est refait une beauté. Et pour fêter ça, jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits. Meubles, électro, images et sons, literie, cuisine et décoration. Sur plus de 6000 mètres carrés. On vous attend. Butte la queue en brie, route de Noiseau, RN4, la Croix-Saint-Nicolas. Offre valable du 9 février au 8 mars.
Butte, des prix et des idées tous les jours.
Je reviens au direct. On a été dans le Val-de-Marne, on est parti dans le 64, 6 et 4, et maintenant on revient à la région parisienne. On va aller jusqu'à Crône, département 91, avec monsieur le maire, monsieur Michael Damietti. Bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors, première question, j'avais déjà posé une question à votre collègue de Champigny-sur-Marne. Où est-ce qu'on en est par rapport au vaccin? Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que la population de Crône, surtout le troisième âge, a bénéficié de la petite piqûre?
Alors, j'entendais tout à l'heure mon ami et collègue Laurent Jeanne sur Champigny. Mmh. Sur notre territoire, la situation est légèrement différente. Parce que nous n'avons pas de centre de vaccin à proprement parler. C'est des centres qui sont pour plusieurs villes. C'est plutôt sur un territoire que ça se passe. Et c'est vrai que là aussi, on rencontre les mêmes problématiques, c'est-à-dire, dans un premier temps, un approvisionnement en termes de doses qui tarde à arriver, et c'est surtout ça la problématique. Parce que la logistique, on la connaît, on l'a déjà mis en place sur le dépistage, où là aussi, les villes ont joué un vrai rôle, et notamment à Crône, on a su s'adapter, le mettre rapidement, de façon sécurisée, et surtout très efficace. Alors que là, pour les vaccins, en fait, c'est plutôt sur deux villes, donc on a Montgeron sur notre territoire et Brunois. Alors nous avons la chance d'être juste à côté de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges qui procure aussi ces doses de vaccins et qui fait les vaccinations. Donc il faut pouvoir gérer là-dessus. Mais c'est vrai que c'est lent, c'est très lent et on a beaucoup de demandes et beaucoup d'impatience de notre population. Et notamment, vous disiez, du troisième âge, hein, puisque c'était pour les personnes de plus de 75 ans. Là, c'est descendu, on entend des annonces gouvernementales pour les personnes de plus de 65 ans, mais les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait et on se retrouve un petit peu sur un bouchon et en tâchant d'expliquer le pourquoi du comment et essayer de jouer un petit peu les équilibristes parce que parfois la population ne comprend pas toujours pourquoi elle doit attendre plusieurs mois pour être vaccinée.
C'est d'ailleurs les gens, ils ont l'habitude d'appeler la mairie pour s'inscrire, non? Comment ça se passe chez vous?
Alors ils ont l'habitude d'appeler la mairie. Nous avons communiqué parce que nous, évidemment, nous ne pouvons que renvoyer vers les numéros dédiés, c'est-à-dire les centres de Montgeron, Brunois ou Villeneuve-Saint-Georges. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire sur Doctolib. Donc je pense que les canaux d'inscription fonctionnent plutôt bien. Simplement, la problématique, c'est que lorsque vous appelez et qu'on vous dit « on va vous recevoir dans deux mois », et déjà, c'est en vous inscrivant sur une liste d'attente, parfois c'est difficile à comprendre parce que vous avez envie d'être vacciné rapidement, si ce n'est pas dans les prochains jours, en tout cas dans un délai tout à fait raisonnable. Et là, les délais qui sont proposés sont, encore une fois, beaucoup trop longs. Alors, j'ai bon espoir parce que les doses arrivent, les différents laboratoires proposent de nouvelles solutions. Donc, évidemment, la population avance en termes de vaccination. Donc, j'imagine que ce bouchon, à un moment, va se limiter. Mais aujourd'hui, on se retrouve quand même dans cette situation avec, et on en parlait tout à l'heure, des variants qui sont de plus en plus dangereux, hein, que ce soit le variant anglais ou brésilien. Là, aujourd'hui, c'est le nouveau risque qu'il faut gérer.
Mais entre-temps, le président de la République parle d'impasse. Impasse que, bon, ça serait bon, un genre de sésame, on pourrait aller partout, tout est fermé, mais enfin, alors, passeport sanitaire et avoir un passe dans la situation actuelle où la plupart de la population n'arrive pas à trouver un vaccin, il n'y a pas quelque chose qui tourne pas rond?
Si, je pense que là, on met un petit peu la charrue avant les bœufs. Alors, gouverner, c'est prévoir. Donc, je pense que c'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois que l'ensemble de la population sera vaccinée, en effet, il faudra pouvoir démontrer que vous êtes sain et en tout cas protégé. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est d'être vacciné. Et surtout pour les personnes fragiles. En ce qui me concerne, je ne suis peut-être pas le premier concerné, mais pour les personnes polypathologiques ou âgées, je comprends qu'elles aient des inquiétudes et qu'elles souhaitent être vaccinées au plus vite. Donc ensuite, on verra comment utiliser cette vaccination avec un pass. Mais vous le disiez très justement, Arthur, aujourd'hui, à quoi bon un pass puisqu'on peut aller nulle part, les pays sont fermés et tous les lieux de loisirs ou de plaisir sont également fermés. Donc dans un premier temps, il faut pouvoir sortir de cette situation de pandémie encore mondiale, hein, on l'oublie, mais certains pays sont encore confinés, comme l'Angleterre par exemple. D'autres sont avancés en termes de vaccination, je pense à Israël qui a presque vacciné un quart de sa population. Donc voilà, on se retrouve quand même dans cette situation. N'oublions pas que c'est une pandémie mondiale et que la première chose à faire, c'est d'abord sortir et puis commencer à revivre un peu plus naturellement, comme on le regrette, mais il y a encore un an, voilà, prendre un café tous ensemble ou se retrouver à une terrasse avec ce beau soleil, c'était tout à fait naturel. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup à en rêver.
Oui, mais là, c'est aussi un risque d'empirer, puisqu'on va voir qu'est-ce que M. Castex va annoncer jeudi prochain, probablement en confinement, comme la région de Nice ou la région de Dunkerque. Mais enfin, mais à propos du passeport européen, il y a 4 pays qui demandent ce passeport parce qu'ils pensent aux touristes. Donc, on divise, c'est le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Passons. Mais revenons un petit peu au plancher des vaches, c'est le cas de le dire. Donc, demain, c'est fini, les vacances scolaires. M. Blanquer avait dit qu'il allait distribuer des tests rapides. Il y a quelque chose de prévu demain chez vous?
Alors là aussi, on a, comme vous, des annonces gouvernementales, mais dans les faits, on a peu d'informations et c'est triste parce que on aimerait anticiper, on aimerait aussi tenir informés nos populations, les parents d'élèves par exemple, mais on a entendu que les enfants allaient avoir des tests. Je sais que la présidente de la région pour les lycées s'est mobilisée pour que on ait plus d'informations, mais à ce jour, ça reste encore très flou. Et vous le disiez très justement, demain c'est la rentrée des classes, et si je suis bien incapable de vous dire quelle va être la méthodologie pour les tests, est-ce que ça va être les premiers jours, les premières semaines? Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, donc c'est assez difficile. En ce qui concerne la rentrée scolaire, l'autre problématique à gérer, évidemment, c'est les protocoles sanitaires dans la restauration scolaire, qui oblige à avoir des latitudes et des temps sur la pause méridienne très importants, et notamment pour les enfants. Ils finissent pour certains de manger vers 14h30, quand vous avez au maximum 10 ans, c'est un temps qui est très long. L'organisation est aussi compliquée, ça demande plus de personnel, une méthodologie différente. Donc là aussi, on essaye de s'organiser, mais c'est pas toujours simple. Vous l'avez vu, certains ont choisi d'avoir un menu unique pour justement limiter ces temps. Pour l'instant, à Crône, nous continuons d'avoir un service classique, mais c'est vrai qu'en fonction des évolutions, il n'est pas impossible qu'on ait aussi à s'adapter.
D'accord. Végétarien?
Soit végétarien, soit un menu unique, soit un menu froid. En tout cas, quelque chose qui permette d'aller assez vite, exactement, et de gagner du temps en fonction des demandes qui seront liées à l'évolution sanitaire de la situation, oui, bien sûr.
Alors, en ce qui concerne les masques, on a vu qu'à Champigny, ils avaient distribué des masques, ils vont le faire à partir de demain. Bon, mais tout ça, ça suppose des dépenses supplémentaires pour les finances de la municipalité?
Mais bien sûr, mais évidemment, alors c'était déjà le cas sur l'année 2020. Là, vous savez, Arthur, nous sommes en pleine période de budget, hein, donc c'est le cas à Crône, hein, votons le budget le 23 mars prochain au conseil municipal. Évidemment, ça a un impact. Alors, vous parlez des masques, des gels et de tout le protocole sanitaire à mettre en place. Ça, je dirais que c'est presque la partie émergée de l'iceberg, parce que derrière, vous avez toute la partie que vous ne voyez pas, qui sont des pertes de recettes importantes, hein,
oui, aussi tout à bien fait.
Sur les activités scolaires, périscolaires, de demi-pension, ou aussi des dépenses supplémentaires pour les protocoles de santé. On parle tout à l'heure des associations, là aussi, les associations continuent de verser des subventions, mais malheureusement, elles ne peuvent pas pratiquer. Et c'est vrai que le but, c'est d'être à leur côté, de pouvoir être un vrai soutien lorsque les choses vont redémarrer. C'est la raison pour laquelle, dans le budget, nous avons prévu plus de 80 000 euros sur un chèque sport-culture pour aider les associations, justement, pour ce démarrage. On parlait tout à l'heure aussi des commerces, de l'activité économique. Là aussi, nous avons décidé, et c'est sur les budgets de la ville de Crône, d'être au plus près des commerçants en votant une enveloppe de 50 000 euros pour aider les commerçants, justement, soit dans des travaux, soit dans des installations, pour les aider dans le loyer, parce qu'on sait que les temps sont difficiles. Donc tout ceci, ça ne se fait pas forcément, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir communiquer, mais c'est forcément aussi nécessaire. Et vous voyez, c'est quelques exemples qui sont la partie vraiment émergée et qui sont les dépenses plus importantes. Donc tout ça, oui, les villes sont obligées de faire un certain nombre d'efforts en tout cas de choix et d'arbitrage pour pouvoir pallier parfois au manque et en tout cas répondre présent face à cette crise.
Alors quand il y a eu le premier confinement, je pense qu'il y a eu un élan de solidarité, pas seulement, c'est-à-dire on s'est rapproché les uns des autres et surtout au niveau du petit commerce, etc., etc. Donc cette idée de consommer local, donc quelque chose qui est resté, quelque chose qui continue à être développé.
Bien sûr, et je pense que si on regarde le verre à moitié plein de cette crise, c'est le mot innovation qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, réinventer la façon de consommer. Vous parlez des petits commerces, et c'est très vrai, et ça va, je dirais, dans le bon sens. On est à Conné, on est sur une production locale, on fait travailler des gens qu'on connaît, qui vivent à côté de vous. Bien sûr, tout ça a du sens, mais il faut aller même au-delà de ça. Pour réinventer les choses, aujourd'hui on parle un tout petit peu moins d'environnement, mais là aussi cette crise a permis de limiter les déplacements, de limiter peut-être notre impact. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut peut-être réinventer notre façon de consommer, de vivre ensemble. Donc c'est le côté positif de cette crise, elle nous oblige à innover, elle nous oblige à réfléchir, donc profitons-en.
Alors entre-temps, on nous oblige aussi au couvre-feu. Donc à partir de 18h jusqu'à 6h du matin, il n'y a rien. Donc, les jeunes, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? Parce que dernièrement, il suffit de voir, cette semaine, 3 adolescents qui ont été tués dans la région parisienne, j'entends. Les jeunes, ils ont envie de faire la fête. Donc, ça provoque un certain nombre de désagréments.
Bien sûr, c'est une situation qui est difficile. Aujourd'hui, Laurent Jeanne donner l'exemple de sa fille qui vient de fêter ses 20 ans. Évidemment, aujourd'hui, avoir 20 ans, quand on peut pas se retrouver, quand on peut pas partager un café, un verre, c'est évidemment difficile. C'est difficile pour les jeunes, c'est difficile aussi pour tout le monde. Il n'y a pas que les jeunes. Mais je vous comprends, et vous avez parfaitement raison, à cette époque de sa vie, on a pas que ça à l'esprit, mais en tout cas, ça fait partie des priorités, et c'est tout à fait normal. Donc oui, cette situation, elle est difficile, mais elle est aussi nécessaire. Donc, il faut qu'on fasse avec. Aujourd'hui, les parcs restent ouverts. Une journée comme celle-ci, on peut en profiter. Évidemment, c'est pas la même chose. Évidemment, on peut pas faire la fête. C'est très compliqué. L'autre point que vous évoquez, Arthur, c'est aujourd'hui les drames qu'on a pu entendre dans les différents quartiers et notamment sur notre territoire du Val-d'Isère-Val-de-Seine. Alors, ça, c'est dramatique. D'abord, j'ai une pensée, évidemment, pour toutes les familles, pour tous les proches qui ont été endeuillés. 14 ou 15 ans, c'est pas un âge pour mourir et encore moins dans des conditions telles qu'on les connaît. C'est vraiment absurde. Et c'est vrai que cette situation est dramatique, mais malheureusement pas nouvelle. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire d'amalgame entre le Covid, la pandémie qu'on vit et les drames qui se sont passés les derniers jours. Cette situation, on la connaît. Elle est aujourd'hui dramatique parce que ça finit par des meurtres. Rappelez-vous, et je sais que j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur votre antenne, les rivalités entre Hyères et Crohn, les bandes sabres étaient sortis, etc. Alors, j'ai envie de dire, on avait eu de la chance parce que c'était que des coups de marteau et ça avait fini simplement à l'hôpital. Là, c'est dramatique parce qu'il y a des adolescents qui meurent, qui laissent des familles endeuillées. Donc, c'est vraiment dramatique. Et cette situation ne peut plus durer. Ça, c'est une évidence. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut mettre évidemment les moyens sur le terrain et c'est ce que nous avons fait à Crohn avec une police municipale assez active. Et c'est vrai que là aussi, vous disiez, ça coûte pour les villes. Bien sûr, parce que qui paye? Ce sont les villes qui décident de choisir cette politique, alors que la sécurité, c'est plutôt quelque chose, une activité régalienne que l'État doit assurer, mais faute de moyens, ben nous devons, nous, villes, assurer cette protection à nos concitoyens. Et puis le deuxième point, c'est aussi la réponse pénale, pour dire les choses très clairement. Lorsque les individus, les voyous sont arrêtés, malheureusement, la réponse pénale n'est pas à la hauteur des conséquences que l'on connaît. Donc c'est vrai qu'on se retrouve face à cette problématique. Et nous, les maires, nous sommes en premier lieu. Et j'ai une pensée, évidemment, pour mes collègues de Boussy-Saint-Antoine, d'Épinay ou de Quincy, qui doivent aujourd'hui vivre et être au plus près de ces familles endeuillées. Mais on se retrouve dans cette situation très compliquée avec cette double problématique d'effectifs de moyens et puis aussi une problématique pénale. Donc, on attend les réponses, mais ça ne fait que trop longtemps qu'on les attend. Je ne peux que le regretter.
Alors, on a abordé un certain nombre de choses, bon, et au mois de juin, on sera encore avec la Covid, malheureusement. Donc, tout ça, ça va servir aussi de base pour le débat, ça concerne les régionales et départementales. Comment est-ce que vous voyez la situation?
Là aussi, on va vivre quelque chose d'assez exceptionnel et d'unique, puisque, voilà, on est sur une campagne qui n'est pas tout à fait validée, presque, mais pas encore. avec un double vote, avec une campagne où vous pourrez difficilement aller vers les autres puisque vous avez évidemment les barrières de sécurité à respecter. Donc voilà, quel va être le débat, quels vont être les sujets. C'est vrai que ça s'annonce assez spécial, mais je pense que là aussi la démocratie passera cette étape. Hein. Je vous parlais encore une fois d'innovation. Là aussi, il va falloir innover, il va falloir pouvoir entrer en contact aux gens, il va falloir pouvoir convaincre les gens d'une certaine façon, d'une nouvelle façon, c'est évident, mais pourquoi pas. Et je pense que ce qui est important, c'est surtout les idées, le message qu'il faut faire passer. Et là, j'ai confiance, en tout cas, dans les différents décideurs que nous connaissons, et je pense notamment à la région avec Valérie Pécresse, pour pouvoir convaincre les électeurs sur son territoire et la région Île-de-France.
Oui, surtout qu'il y a plein de choses, hein. Le Grand Paris, etc., tous les projets qu'on annonce, les nouveaux transports et tout, bon, on est dans un croisement important au niveau de la région parisienne.
Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a de nombreux chantiers qui ont été lancés. Donc là aussi, il faut le mettre évidemment au crédit de la présidente et de toute l'Assemblée régionale. Donc beaucoup de choses ont été lancées et je pense que c'est bien. C'est même une bonne chose parce que face à cette crise du Covid, tous ces chantiers qui ont été lancés au préalable, donne encore quand même du travail, une activité, des carnets de commandes assez pleins pour pouvoir justement anticiper un futur. Donc je trouve que c'est une très bonne chose et notre région en avait également besoin. Les transports, c'est fondamental, hein, en termes d'accessibilité, en termes de développement économique, développement durable évidemment. Donc je pense que tous ces chantiers essentiels ont été lancés. Maintenant, il faut les poursuivre et puis les amener jusqu'au bout.
Oui, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a plein, il y a des dizaines de milliers de personnes que tous les ans quittent la région parisienne. Bon, ils cherchent peut-être une maison avec un jardin et tout, mais vivre dans la région parisienne, c'est pas facile. Les transports, le logement, la vie est trop chère. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait s'en occuper aussi, non, monsieur le maire?
Alors, il y a des avantages, évidemment, et puis il y a aussi des inconvénients. Je pense que c'est le lot de chacune des grandes villes. Vivre en région parisienne, ça vous donne aussi une activité économique, hein, très souvent.
Et l'emploi, oui, tout à fait.
Et voilà, donc c'est souvent pour ces raisons que nous sommes attachés à la région parisienne. Hein. C'est quand même l'Île-de-France, la première région d'Europe, hein, donc c'est pas une mince affaire. Donc, évidemment, quand on peut aussi offrir un cadre de vie, je pense que nous, maires, nous sommes attachés à cette mission, parce que je vais prendre l'exemple de Crosne, hein, nous sommes à 15 km de Paris, sur des pôles d'activité économique assez importants, que ce soit Rungis, Orly ou Paris et sa proche banlieue, avec un cadre de vie aussi très intéressant, avec des transports qui, quand ils fonctionnent, sont assez efficaces, Villeneuve-Saint-Georges juste à côté. Donc je pense que de plus en plus, les habitants, en effet, recherchent ce compromis entre cette ville, cette campagne, cette qualité de vie, ce développement économique quand même nécessaire. Donc à nous de pouvoir répondre de façon la plus efficace possible à ces demandes. Et je pense que là aussi, l'aspect naturel, aujourd'hui, les gens sont en recherche d'espaces naturels, d'espaces de fraîcheur, d'espaces de verdure. Et on se rend compte de plus en plus que non seulement c'est nécessaire, mais c'est essentiel.
Pour vivre, et tout à fait.
Exactement.
Alors, je rappelle M. Michael Damietti, maire de Crosne, dans le département 91. Merci. Et on va accompagner, savoir qu'est-ce qui va se passer à partir de demain avec la rentrée scolaire. Merci, à très bientôt.
Merci Arthur, à très bientôt. Au revoir.
Estamos a chegar às 13 horas e, por que não, o Circo dos Fachos. Hein? Essa agora, bom, isto é uma alusão direta aqui que se está a passar em Portugal, mas enfim. O grupo é o GAC, Grupo de Ação Cultural Vozes da Luta, o título O Circo dos Fachos. Ouçam bem.
Olha o circo dos impostores, dos meliantes e dos traidores, que representam a farsa antiga, com cenas de ódio cheias de intriga. Para anunciar esse carnaval, lá vem o cura e o general. Um abençoa e o outro ataca, rebenta a bomba que fere e mata. Fachos
que fazem arruaça,
capachos
de tudo que ameaça, que estão fora do covil e querem voltar ao antes de abril.
São fachos
que querem outra vez
os tachos
que hão de perder de vez.
Contra-regra, Guenner e Gudo entra na pista com os faz tudo. Faz um sinal e entra o trapezista. Desengonçado é o separatista. Vem a quadrilha de trauteiros, representada pelos caceteiros. Entra a galope e atropela a greia. Força de choque para manter a lei. São fachos que fazem a roça, capachos de tudo que é reaça, que estão fora do covil e querem montar ao antes de abril. São fachos que querem outra vez os tachos que hão de perder de vez. Quando a malta lhes chegar, pista de ar protetor, há uma estátua do ditador, já com o manto tudo em farrapos e a cabeça feita de trapos. Da assistência selecionada, muito bem posta, não falta nada. Lá estão as damas e os senhores da lei, mais os devotos da Opus Dei. Capachos que fazem arruaça, capachos de tudo que é reaça, que estão fora do covil.
Bonjour à tous. L'Allemagne veut durcir ses restrictions à la frontière avec la Moselle. Le pays s'apprête à classer le département en zone à risque maximal à partir de lundi. Décision prise par Berlin en raison de la très forte circulation du Covid-19 dans ces territoires. Conséquence, les Mosellans devront présenter un test PCR négatif de moins de 24 heures pour pouvoir passer la frontière. Cela concerne également les 16 000 travailleurs transfrontaliers. Une quarantaine de députés demandent la réouverture des restaurants le midi dans une tribune publiée aujourd'hui par le Journal du Dimanche. Alors que certains salariés peuvent déjeuner dans leur restaurant d'entreprise, d'autres sont contraints de se restaurer dehors ou dans leur bureau. Et ces lieux ne sont pas adaptés, selon ces 42 parlementaires, dont le député MoDem Christophe Ramos. Les hôpitaux privés, prêts à augmenter leur capacité de réanimation en cas de nouvelle accélération de l'épidémie de Covid-19, c'est ce qu'affirme la Fédération de l'hospitalisation privée ce dimanche. Le secteur pourrait upgrader ses services de réanimation afin de disposer d'un plus grand nombre de lits. Selon Lamine Garbi, le président de la FHP, on est aujourd'hui entre 1500 et 2000 lits de réanimation dédiés aux patients Covid et on peut monter jusqu'à 4000. Dans l'actualité, également un homme tué par balle la nuit dernière près de Toulouse. Les faits se sont produits sur une place de la ville de Blagnac. D'après la Dépêche du Midi, la victime, âgée de 26 ans, a été blessée par arme à feu par un homme à scooter. Il n'a pas pu être réanimé par les pompiers. La police judiciaire de Toulouse a été saisie du dossier. Des investigations qui se poursuivent également en région parisienne. Vendredi, un adolescent de 15 ans est mort, lui aussi tué par arme à feu. Les deux suspects se sont rendus, ils sont toujours en garde à vue. Un drame qui a suscité une vive émotion dans la commune de Bondy, la ville de Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs rendu hommage à la victime. « Tu seras toujours dans le cœur des Bondinois », a écrit sur Twitter l'attaquant du PSG. Kylian Mbappé, qui était d'ailleurs l'un des principaux artisans de la victoire de Paris hier 4-0 face à Dijon. La 27e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche, notamment ce soir avec le choc Marseille-Lyon, au coup d'envoi à 21h. Voilà pour l'actualité. Très bonne journée à tous.
Savoir sur l'arrêt du tabac avec Tabac Info Service. Damien était avec nous aujourd'hui. Après 18 ans de tabagisme, il a décidé d'arrêter de fumer pour être plus libre, pour sa santé et surtout pour vivre quelque chose de positif en cette période difficile. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, Damien a décidé de se faire accompagner par son médecin. Il a aussi téléchargé l'appli Tabac Info Service pour s'aider. Et jusque-là, eh bien, ça marche. Alors Damien, merci pour votre témoignage et bravo pour ce défi.
Nous sommes assistantes maternelles,
employés familiaux,
auxiliaires de vie.
Nous sommes presque 1 million en France.
Mais qui nous représente? Qui nous accompagne? Qui nous défend?
Bayel UNSA. Pour nous, assistantes maternelles et salariés de particuliers employeurs, l'UNSA propose toute une gamme de services. Formation, conseils personnalisés, protection juridique. Découvrez tout ce que l'UNSA fait pour nous sur monunsa.org.
Moins seule, plus forte avec l'UNSA.
Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique.
Oh, j'étais tellement impressionnée la première fois que tu m'as présentée à tes amis.
Tu parles. C'est plutôt eux qui ont été impressionnés par ton assurance.
C'est tout?
Non, et ton incroyable sourire.
Vous aussi, commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr.
Mythique.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron? Bon bah...
T'arrêtes de me faire mariner, oui?
Désolé, mais dès demain, les deux pavés de bœuf marinés aux trois poivres sont à 3,29€ les 260 grammes. Moins 14%.
3,29€ les pavés marinés aux trois poivres.
Et en plus, c'est de la viande bovine française.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 80 références de viande et volaille. 12,65€ le kilo, produit transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 9 mars. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Radio Alpha.
SFB, société francilienne de béton, producteur de béton prêt à l'emploi, met à votre service son expérience pour réaliser votre terrasse, votre allée de garage. La société SFB répond à vos besoins. SFB, téléphone 01 81 80 58 23. 01 81 80 58 23.
Lusitania Market, o seu espaço de alimentação portuguesa e churrasqueira, onde encontrará todos os bons produtos da nossa terra. Continue a aproveitar as promoções no Lusitania Market. Este mês, vinho tinto Monsaraz, apenas 15,99€ a caixa de 6 garrafas. Vinho Mateus Rosé, apenas 19,90€ a caixa de 6 garrafas. Laranja do Algarve, a 1,35€ o quilo. Atum, óleo Bom Petisco, 1,49€. Lusitânia Marquette, 56 Rue du Canal, em Longjumeau. Telefone 01-69-20-4623.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Dans cette eau de soie,
où végète le froid, la luxure en péril regrette le sommeil dans les mains de soleil, tous les corps qui s'élevaient que l'homme a l'idée de retrouver leur cœur. Ta bouche aux lèvres d'or, ta bouche aux lèvres d'or n'est pas à moi, n'est pas à moi.
Carlos Pires com o seu último trabalho que acaba de sair em Portugal, já saiu no ano 2020 e aqui vai ser a partir do dia 5 de março. Carlos Pires, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Era, este disco é uma viagem musical, não é por acaso que comecei antes da entrevista a passar o texto de Paul Éluard. De maneira que é verdade que este disco é o fado que viaja, ou finalmente são influências do mundo que vêm até ao fado?
Este disco teve como ponto de partida exatamente isso que está a dizer, as viagens. E acaba por ser o registro da minha passagem pelos vários países do mundo, das viagens que já fiz, mas também daquelas que ainda quero fazer levando o fado na voz. Portanto, sem dúvida que foi o princípio de tudo, deste cartografado.
Pois, há mesmo alguém que diga que é um fado mapa.
Sim, e o próprio nome também o diz, portanto é um mapear das minhas vivências noutros países, das minhas influências musicais, e sentimos realmente neste trabalho toda essa diversidade de uma forma extremamente atual, sem deixar de ser intemporal e respeitando a tradição do fado, do próprio fado, do chamado fado tradicional, do fado de raiz.
Mas aberta a outros instrumentos também, não é?
Não é só guitarra portuguesa. Não é só guitarra portuguesa, guitarra clássica e contrabaixo, que são os três instrumentos base do meu trabalho, sempre foram, mas também a inclusão de outros instrumentos, porque para mim a música só faz sentido assim, sendo livre, respeitando a tradição, mas por outro lado, sendo livre e sendo uma linguagem universal, só faz sentido mesmo assim.
Então o fado não é aquela canção triste, pesada, onde só contamos os nossos desgostos. O fado não é isso, é completamente diferente.
Não é de todo. Portanto, o fado eu costumo dizer que é a cantiga da alma, não é? E é a cantiga que retrata, através dos seus poemas, as vivências. Portanto, as vivências podem ser coisas tristes, mas também podem ser coisas felizes, podem ser passagens da nossa vida que nos influenciem de qualquer forma, mas não é de todo só uma canção triste. O fado é muito mais do que isso, tem um poder tal que, dando aqui um exemplo de quem não percebe nos meus concertos quando estou fora de Portugal, de quem não percebe as letras, não é? Nem quem não percebe o português, através da música, conseguem perceber se é uma canção triste, se é uma canção alegre. Portanto, esse poder da música é o que mais me atrai nesta canção tão bonita que ele faz.
Mas, Carlos Pires, ao mesmo tempo dá uma abertura, estou a pensar, por exemplo, num certo de performance que fez, parece a Europa fora, e não só, mas aqui também no Cirque d'Hiver, no Théâtre de la Ville, aqui em França.
É
uma abertura enorme, quer dizer, o fado aí serve de suporte, algo muito mais abrangente.
Sem dúvida. E sendo uma linguagem tão própria, é tão bom poder levá-lo aos vários cantos do mundo e sentir que as pessoas o abraçam da mesma forma que eu faço, sentir essa união, essa... Eu quando estou no palco e quando canto, dou tudo de mim. E a realidade é que nesses momentos, a verdade é única. Portanto, é tão bom, tão bonito quando acaba um espetáculo, um concerto, sair do palco e ter com as pessoas que me esperam e sentir esse feedback, sentir que as pessoas me acarinham e que as pessoas estiveram lá e que eu passei de alguma forma uma mensagem que lhes vai ficar também no coração. Portanto, isso é único e não tem preço.
Ora, o seu álbum cartografado sai aqui no dia 5, mas para além de, evidentemente, a distribuição do álbum, estavam previstos um certo número de espetáculos e a maneira como fala, precisamente, aquela ligação com o público, como fadista, como música que vive precisamente dessa relação com o público, não há concertos, não há nada para ninguém. Estamos confinados. O setor artístico está completamente sinistrado. É difícil este período?
Muito, muito difícil. E é uma fase que nós artistas estamos a passar. Portanto, eu falo de mim, mas falo também dos meus colegas, porque há muita gente, entre técnicos, tanto todo o setor da cultura, das artes, está completamente parado. Portanto, é tão triste ver os nossos sonhos adiados, ver... Eu muitas vezes nem tenho, já falei tanto sobre isto que chego a não ter palavras para exprimir o meu sentimento em relação a tudo isto que sai dos nossos... Portanto, nós não ficamos impotentes perante toda esta situação. Eu só quero, muito sinceramente, que tudo isto passe e que voltemos ao mais normal possível para poder, assim, levar este meu trabalho para cima do palco, porque é só aí que ele acontece. Portanto, um disco, para mim, só faz sentido quando o levo para cima de um palco, quando começo a explicá-lo às pessoas, a dá-lo às pessoas. Portanto, é realmente uma fase de muita incerteza, de... Olha, triste, sim, numa palavra, triste.
E tanto mais que sem cultura não há, não há vida. Ou não há vida sem cultura, não é? É até uma aberração. Bom, nós aqui tínhamos.
O mundo sem cultura
tínhamos a
não,
mesma
é,
coisa.
Não é o mesmo.
Não é o mundo. Por exemplo, as livrarias em Portugal estão fechadas. Foi o que nos aconteceu aqui em França. Não era um bem essencial. Como se a cultura fosse um bastardo, não é filho da nação, mas é um bastardo.
Sim, como se fosse um bicho mau, não é? Como se fosse a ovelha negra. Pronto, é triste que a cultura seja sempre a primeira a cair e seja sempre a última a levantar-se.
Ora, Carlos Pires, vamos voltar um bocadinho atrás e a comédia musical A Volta da Amália. Penso que para si foi uma experiência importante essa, porque durante um certo tempo fazia a Amália ainda jovem, não era? Mas depois evoluiu igualmente também no papel. Mas foi uma experiência importante para si? Três anos?
Sem
foi
dúvida.
Isso? Três anos?
Sim, já nem sei precisar, porque houve várias interrupções também, depois saí do projeto para fazer outros projetos, mas depois acabei por voltar. E portanto esse papel da Amália jovem, depois teve uma progressão e acabei por fazer o papel na idade mais madura também da Amália, e foi realmente um projeto que me fica até hoje no coração e no qual aprendi tanto, tanto, tanto nas mãos do Filipe Laféria. E não tenho palavras para descrever a felicidade que eu senti ao subir ao palco e poder retratar aquela que é a minha grande inspiração, que é
a Amália.
Que é a Amália, que é maior, maior do que tudo. Portanto, ela era a artista completa, ela era. Era a Amália.
Basta dizer a Amália.
É verdade.
Eu gostava que voltássemos um bocadinho atrás, penso que foi em 2014, o fado, o balé. Talvez
este caso da dança contemporânea.
Exato, talvez valha a pena falar disso, que foi realizado, penso eu, na Holanda, não foi? Foi um espetáculo que teve lugar na Holanda.
Portanto, este espetáculo do Vasco Valancante, o coreógrafo que me convidou para integrar este espetáculo, que começou por se chamar Fado, Ritual e Sombras, teve uma apresentação por toda a Holanda, com uma companhia também de dança contemporânea acabou por ser um intercâmbio entre as duas companhias de dança, a holandesa e a portuguesa, com fado ao vivo, com música ao vivo. Este projeto foi, para mim, um dos projetos da minha vida. Espero ainda vir a ter mais tão bonitos, o mais bonitos quanto este, mas sem dúvida este espetáculo marcou-me. Fizemos cerca de 25 concertos por toda a Holanda, sempre esgotados. Este espetáculo ganhou inclusivamente um prémio da escolha do público para melhor espetáculo nesse ano, nesse mesmo ano. Portanto, isso deixou-me cheia de orgulho e marcou, sem dúvida, uma fase muito bonita da minha carreira.
Mas, não tenho dúvidas disso. Carla Pires, finalmente, será o espetáculo deste era impossível de fazer em Portugal? Porque não?
É assim, impossível não era. Nós tentámos fazê-lo e a estreia deste espetáculo foi em Portugal, mas ficou-se por aí. Portanto, fizemos a estreia deste espetáculo no Luisa Todi em Setúbal. Mas ficou-se por aí, portanto não fizemos mais nenhum. Portanto, depois deste espetáculo, no ano a seguir, em 2015, também com o coreógrafo Vasco Valencamp, acabou por ter outros contornos. Foi introduzido também num outro espetáculo de dança que tinha três partes, também com o tango, e fizemos 15 concertos, 15 espetáculos na Ópera de Graz, também esta, sempre esgotada e o público acarinhou-nos e é realmente uma fase da minha carreira que me traz sorrisos e que me deixa uma certa saudade. Esta palavra tão portuguesa, não é?
É verdade. Bom, e é impossível dar a definição, sente-se na pele, sente-se no coração, não se explica.
Sim, agora, não se explica, não. Agora,
este quarto álbum, cartografado, há uma constante, alguém que está presente neste álbum, e de que maneira? Amélia Mus.
Ah, sem dúvida, a minha Amélia. Este encontro com a Amélia foi das coisas mais bonitas que me aconteceu. Eu já tinha uma vontade imensa de conhecer a Amélia e até então nunca nos tínhamos cruzado. Conheço o trabalho da Amélia de raiz e logo a partir do primeiro encontro houve logo uma empatia muito grande entre nós e nasceu uma amizade muito, muito bonita que eu espero que se mantenha. E a Amélia foi realmente, eu costumo dizer que ela foi o coração deste cartografado. Sem a Amélia não era possível tê-lo conseguido desta forma. Portanto, a Amélia, descrevo a Amélia como sendo a base que deu início a este trabalho tão bonito, que foi feito em conjunto, sem dúvida, mas que, pronto, a Amélia não tenho palavras para descrever.
Não, o melhor é ouvir. Melhor ouvir porque há bastantes poemas da Amélia Mus, entre outros, é aquele que dá o título ao álbum, cartografado.
Sim, a Amélia sem dúvida conseguiu ler-me a alma. Eu costumo dizer que ela, quando começou a escrever para mim, as primeiras coisas que eu ouvi cantadas por ela, ainda em forma de esboço, eu percebi, ok, ela conseguiu ver a Carla, a essência, a minha essência. Isso é tão bonito quando acontece, não é? Quando os poetas, quando quem escreve para nós consegue ver-nos dessa forma tão, tão bonita, que não tenho forma de agradecer-lhe este trabalho, que também sei que significou muito para ela.
Há Himalaias de Fado.
Ah, Himalaias de Fado. Este foi um dos primeiros, se não o primeiro, a primeira letra que ela me mostrou. Ela estava eufórica e dizia-me, Carla, tenho aqui uma coisa, pá, quero começar com, quero dar como se desse a volta ao mundo, e quero começar com Himalaias de Fado. E então ela começou ali, num bocadinho, com frases soltas, e eu consegui perceber, ok, isto vai ser brutal, vai ser maravilhoso. E ela brinca com as palavras de uma forma muito, muito dela, muito própria, não é?
É uma viagem, porque, bom, temos as florestas tropicais, temos o kimono, a morna também está por aqui.
Exatamente, etc, a morna. Exatamente. Quem ouve sente essas influências e é tão bonito, tanto na parte musical como na parte do poema. Exatamente. É essa viagem que é bonita.
E é isso que nós vamos fazer, precisamente, o tema que eu vou passar, cartografado, lembra, precisamente, é o título do álbum, a partir do dia 5, à venda aqui nas boas farmácias, como tenho o hábito de dizer, aqui em França. Carla Pires, muito obrigada e a tudo o que eu desejo é que nos possamos encontrar aqui.
Obrigada, eu também espero mesmo.
E com o público.
Ao vivo, porque é sempre melhor falar olhos nos olhos.
É verdade.
E sente-se muita falta disso neste momento. Do abraço. De olhar nos olhos e de falar.
Obrigada,
eu.
Obrigado e até breve, então. Obrigadíssimo.
Muito obrigada, obrigada, coração.
E é isso, precisamente, que vamos ouvir. Carla Pires, cartografado.
No picar de uma guitarra, há florestas tropicais. Sempre que se soltam mais, soando a bica da dor, no fado há um Equador que na saudade se encontrará com oceanos de amor. Um fado feito aos socalcos, todo partido em pedaços, mas sempre inteiro no gesto, comprimento sem largura, um kimono, um aceno de cabeça, uma mesura, num chinelinho apertado, aqui também se ouve o fado, numa seda desbotada, num pastiche sem mais nada. Vai lá cima, vem cá abaixo, sai do lado, gira ao meio, trasladando por inteiro, na alma cartografado.
Carla Pires, o tema cartografado, o álbum que estará à venda aqui em França a partir do dia 5 de março. Obrigado, Manuel Alexandre, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam igualmente. Damos encontro no próximo domingo, dia 7 de março. E para terminar, nada melhor, vamos ficar para estas terras de França. É uma canção que já data de 1972. Ouçam bem, para não dizer que em Portugal antigamente é que era melhor. Mas enfim, já é Mário Branco, bem-ajam e até para a semana.
Nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Vamos indo por terras da França, nossa miragem de abastança, sempre de mudança, voando a nossa grade. Quando vai o gado pra matança, ao cabo da boa esperança, bolas pra bonança e viva a tempestade. Não foi por vontade nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé.
vontade nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Da semana, com o apoio da Biblioteca Gulbenkian em Paris, Biblioteca de Língua Portuguesa nos domínios da Literatura, História e Artes. 7P, Boulevard Jourdan, em Paris 14, na Cité Universitaire, entrada sob marcação.
Tiago Salazar dedicou-se durante muito tempo à literatura de viagens e até foi autor de um programa de televisão que nos levava um pouco pelo mundo afora. Mais recentemente tem-se dedicado à escrita de ficção e publicou A Escada de Istambul em 2016 e agora regressa com um romance histórico, O Magriço, que nos faz mergulhar na Idade Média e nos dá a conhecer a figura de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o célebre Magriço, que Camões retratou em As Lusíadas. Tiago, olá.
Viva.
Viva, Tiago, é um prazer ter-te aqui.
Obrigado.
Tiago, olha, aqueles que nos escutam e que nos veem, não se terá a certeza se este Álvaro Gonçalves Coutinho é fruto da imaginação do Camões e depois da tua, ou se realmente existiu. Podes falar-nos um pouco dos inícios deste protagonista, do início de vida deste protagonista da história portuguesa, que também foi. Ele nasceu em Penedono, não foi? Alguma coisa assim, lá no castelo.
É uma figura que existiu, há registro de nascimento, há registros de variadas fases da vida dele, nomeadamente como cavaleiro, e sobretudo em França, onde participou em diversas justas, duelos, ao serviço do João Sem Medo. A parte lendária, e que foi aproveitada por Camões, explica até a vontade de escrever o romance, porque a Lenda dos Doze de Inglaterra, que é uma das mais famosas da história de Portugal, conta que 12 cavaleiros portugueses foram a correr a Inglaterra para salvar a honra de 12 damas ofendidas, e já por si não deixa de ser fantástico o ato, e provavelmente é aí que entra o Álvaro Gonçalves Coutinho como um dos 12, que na verdade são 13, portanto há logo ali uma contagem mistificada. 12 dava mais jeito para o aspecto esotérico e numérico. E se isso aconteceu, o Álvaro Gonçalves Coutinho foi à Inglaterra ajustar e talvez explique a ligação à Borgonha, para onde terá ido depois de sair vencedor dessa justa. Acontece que... é um facto que não está provado, se houve essa justa, tal como... a circunstância dele ter ido até a Inglaterra a cavalo e não de barco, como os outros camaradas de armas. O que, para mim em particular, que já escrevi livros de viagens, achei extraordinário um cavaleiro do século XIV dar-se ao trabalho de fazer uma viagem de meses e atravessar, por exemplo, os picos da Europa e toda a Espanha, a antiga Castela, em guerra,